Trizac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
du Trizac.
Éric Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère et américaine. Monsieur Tassé, bonjour.
Salut Benoît.
Il y a de l'argent qui va rentrer dans les foyers américains.
Beaucoup d'argent qui va rentrer dans les foyers américains. On en a parlé la semaine dernière. C'est de cette somme d'argent de 1900 milliards de dollars qui est passé en fait à la Chambre des représentants la semaine dernière et qui donc finalement a été voté au Sénat ce samedi. Ça s'est fait un peu plus tôt que ce que je prévoyais. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça doit retourner à la Chambre des représentants pour approbation parce que les sénateurs ont joué un petit peu dans la loi pour, si tu veux, faire en sorte que les gens aient pas de période entre les vieilles mesures et les nouvelles mesures, de période d'attente. Donc, les gens vont recevoir, donc les gens, Biden devrait signer ça mardi, et donc d'ici les prochains jours, les Américains qui gagnent moins de 75 000 dollars par année, ou les couples qui gagnent moins de 150 000 dollars US par année, devraient recevoir un chèque de 1 400 dollars, plus 1 400 dollars par enfant ou par personne dépendante. Plus que ça, l'aide que Trump avait consentie, l'aide de 300 dollars par semaine, est bonifiée à 400 dollars par semaine, et ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. On rajoute à ça des crédits d'impôt pour les familles, une aide pour payer l'assurance maladie, et puis la prolongation des programmes d'assurance emploi.
Coudon, est-ce que c'est Justin Trudeau qui a dicté la politique?
C'était ce que j'allais te dire. À mon avis, Biden et Trudeau se sont parlé d'autre chose que de politique étrangère. Je sais pas, il y a peut-être copié Trudeau, mais évidemment, ça va coûter très cher aux États-Unis. Il va falloir que les générations à venir paient ça. Mais en attendant, on risque d'avoir un vrai, une vraie reprise économique extrêmement forte, en fait, qui va se produire si la pandémie finit par s'arrêter. Si on n'a pas de troisième vague, mais aux États-Unis, on vaccine énormément, donc. Ça augure bien pour cet été. Ça signifie que, encore une fois, l'économie américaine devrait connaître une reprise fulgurante dans les prochains mois.
Bon.
Ce qui est bon pour nous, hein. C'est très, très bon pour nous.
Ouais.
Et c'est pour ça aussi que je le mentionne, parce que quand les États-Unis vont bien, en général, ça va pas mal au Canada.
Et Biden qui signe un décret pour garantir le droit de vote, c'est pas banal non plus, ça.
Non, c'est pas banal, parce qu'on s'en était aussi parlé la semaine dernière. Je t'avais signalé qu'il y avait plein d'États qui étaient dirigés par des républicains qui étaient en train de passer des lois pour restreindre le droit de vote. Entre autres, on a appris ce matin qu'en Géorgie, on allait restreindre le droit de vote par la poste à des cas qui sont extrêmes, des gens de 65 ans et plus, qui sont malades, qui sont dans des pays, des gens qui sont dans des pays étrangers. Ceux-là auront le droit de voter par la poste, mais on veut plus qu'il soit possible de voter par la poste comme ça a été fait aux dernières élections. Alors, Biden a signé un décret pour essayer d'aider à garantir le droit de vote. Le problème, c'est que c'est une juridiction qui est étatique, qui vient des États membres des États-Unis. C'est pas Washington qui peut décider ça. Mais quand même, Biden a signé un décret pour essayer de garantir le droit de vote. Et ça, il peut le faire à travers des mesures un peu transversales. C'est-à-dire que il a demandé aux agences gouvernementales américaines de lui soumettre, d'ici 200 jours, un plan pour promouvoir l'inscription des électeurs. Et puis, leur participation au vote. Ça peut se faire, ça, par l'éducation des électeurs américains sur leurs droits, on peut leur offrir des ressources aussi, etc. Mais c'est quand même limité, malheureusement, ce qu'il peut faire. C'est une sorte de prix de consolation. Quand on regarde ce que les républicains sont en train de faire dans plusieurs États, ça va être vraiment très intéressant à suivre ce qui va se passer aux prochaines élections américaines, voir quel va être le taux de participation, voir si les minorités vont pouvoir participer. Remarque que les minorités avaient voté pour majoritairement, sauf les Noirs, avaient voté majoritairement pour Donald Trump.
Ah oui.
Vraiment, ce qu'on aurait pu penser. Bon,
étonnamment. Oui. Il y a des émeutes à Dakar.
Oui, ça, on n'en a pas parlé la semaine dernière non plus, mais il faut commencer à en parler parce que c'est des émeutes qui ont duré 3-4 jours et qui pourraient recommencer aujourd'hui. C'est une histoire un peu abracadabrante. Il faut dire que le climat est pas très bon à Dakar. Les jeunes n'ont pas beaucoup de perspectives d'emploi. C'est une société très jeune. Donc, c'est lourd. Puis avec la pandémie aussi, l'économie s'est arrêtée. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a un dirigeant de l'opposition, Ousmane Sonko, qui était accusé de viol. Il est accusé de viol par une masseuse, une employée d'un salon de massage, donc c'est déjà assez particulier.
Mmh.
Et donc, il s'est rendu jusqu'au commissariat de police à Dakar, mercredi dernier. Puis, en fait, il a été arrêté par la police. qui lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'être dans une manifestation spontanée comme ça. Et à partir de là, les choses ont commencé à dégénérer très très rapidement. Et il y a eu des émeutes à Dakar. Des émeutes qui ont duré 3 jours. Les banques ont fermé, les commerces ont fermé. Il y a eu des saccages. Et ça a été très très grave tout ça. Parce qu'en fait, ça a servi tout ça de bougie d'allumage à l'expression d'un mécontentement énorme à l'intérieur même du Sénégal. Et donc, il y a un mouvement de défense de la démocratie qui a été créé ce week-end, qui regroupe diverses parties d'opposition et qui a appelé à 3 nouvelles journées de manifestation dès aujourd'hui. Parce que le gouvernement aurait une attitude condescendante envers le peuple, pour la liberté de manifester pacifiquement, pour la libération aussi de prisonniers politiques qui sont illégalement arrêtés. Alors, le gouvernement sénégalais, jusqu'à présent, ne dit rien du tout. Il dit simplement que le problème vient du refus du dirigeant de l'opposition de se soumettre à la justice. Et le président du Sénégal est demeuré silencieux. Il y a un médiateur qui a été nommé là-dedans, qui est un gars qui fait partie du... qui est membre du parti au pouvoir, mais qui est très, très respecté. Monsieur Alioune Bandara Cissé. Et lui demande d'écouter la jeunesse. Il dit qu'il faut écouter avant qu'il soit trop tard, etc. Il dit, écoutez, on est au bord de l'abîme. Heureusement, ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est que cet opposant donc s'est rendu au palais de justice. Il a été accusé de viol, mais il a été libéré sur parole, donc il devra se représenter devant les tribunaux. Ça a beaucoup fait baisser la tension à Dakar même, mais l'armée est partout dans la ville. Il y a des tanks qui sont dans la ville aussi, et donc il y a une situation qui est potentiellement explosive encore à Dakar.
Bon, et en Birmanie?
Ben, en Birmanie, là, ça a explosé, évidemment, on le sait. La violence continue à s'étendre.
Ouais.
La police a fait des raids pour arrêter des journalistes, des artistes, des dirigeants politiques, des responsables locaux, des militants, etc. Les manifestants ont changé de slogan. Ils scandent dans les rues « Chassons le dictateur ». Il y a un appel à la grève générale qui a été lancé par les organisations syndicales. Et il y a des députés aussi qui ne reconnaissent pas le coup d'État, qui ont créé une espèce de comité civil. Ils ont été avertis par les médias d'État qu'ils étaient passibles de haute trahison. Et c'est un crime, ça, qui peut leur valoir la peine de mort. Donc, les mouvements pro-démocratie appellent à une mobilisation massive. Pendant ce temps-là, en Europe, on prépare des sanctions contre les dirigeants militaires. Donc, on suit la situation, mais les manifestants ne semblent pas du tout baisser les bras, même si l'armée et la police tirent sur eux avec des balles réelles, même s'il y a des morts, même s'il y a des prisonniers. Je pense qu'il y a des milliers de personnes maintenant qui sont dans les prisons. La mobilisation continue, la population est vraiment totalement écœurée par ces militaires qui sont au pouvoir.
OK. Et rapidement, la Suisse?
Ben, en Suisse, il y a eu un grand vote, un grand référendum pour interdire tout ce qui couvrait le visage. Donc, les cagoules, bien sûr, mais aussi les burkas, les niqabs, etc. On aura le droit de se couvrir le visage avec des écharpes ou pendant les carnavals, ce genre de choses-là. Mais donc, la Suisse rejoint des pays comme la France, l'Autriche, la Bulgarie, la Belgique et le Danemark, où c'est aussi interdit de se couvrir le visage en public. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a une montée de l'islamisme qu'on essaie d'arrêter à travers ça, mais c'est pas juste une loi pour arrêter, pour empêcher les femmes de se couvrir le visage qui va faire ça. Le problème est beaucoup plus profond. J'en parle d'ailleurs dans ma chronique aujourd'hui, dans le Journal de Montréal.
Allez, Loïc Tassé, merci. À demain.
Salut, à demain.